sent ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée. Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Et bonjour à toutes et à tous, il est très exactement midi et des poussières dans le sud de la Lozère. Vous écoutez Radio Barthas sur le 107 de la bande FM ou sur les internets radiobarthas.net. On est mercredi aujourd'hui, c'est le jour de sortie des films au cinéma, donc voilà, on va nous aussi coller à l'agenda et parler beaucoup de cinéma dans cette émission. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que les films sortent au cinéma le mercredi en France? Je me suis posé la question et je vais vous donner la réponse, enfin c'est plutôt le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée qui vous la donne. Tout est très bien expliqué sur leur site, donc je ne fais que transmettre. Au balbutiement du cinéma, les films arrivaient sur les écrans le vendredi, ce qui permettait aux exploitants des salles de concentrer l'acheminement des bobines et leur vérification en fin de semaine, et ça permettait aux projectionnistes de tester le matériel avant la séance dominicale, car dans les années 20, le dimanche était le seul jour de la semaine non travaillé, et c'était donc la journée où les gens se rendaient au cinéma. En 1936, grâce aux réformes du Front populaire, dont on célèbre les 90 ans cette année, les travailleurs sont en repos dès le samedi et donc la sortie est décalée au jeudi pour avoir le temps de tout préparer pour le week-end. Et ça permet aussi de coller au jour de repos des écoliers, qui étaient le jeudi à l'époque, les enfants étant de gros consommateurs de cinéma. En 1972, le repos des scolaires est décalé au mercredi et le cinéma suivra. Et alors que le modèle états-unien a généralisé presque partout dans le monde le vendredi comme jour de sortie des films en salle, eh bien la France ne cède pas à cette uniformisation. Il y a des batailles importantes, n'est-ce pas? Selon moi, on pourrait lâcher sur le jour de sortie des films, faire ça le vendredi comme aux États-Unis et tenir tête à Trump sur des sujets un peu plus importants, et il n'en manque pas. Mais on n'est pas là pour parler politique, je vous l'ai dit, aujourd'hui on parle de cinéma.
Heureusement, le cinéma est là, avec sa caméra qui explore le temps, son objectif qui perce la nuit des siècles.
Midi et des poussières.
Et on commence avec un festival assez original dont c'est cette année la troisième édition. Un festival fondé en Lozère, à Mende, mais qui est itinérant. C'est plutôt cohérent d'ailleurs qu'il soit itinérant car c'est un festival de films de rando. Il met à l'honneur la randonnée, mais pas que. Philippe Denadille, l'un des deux cofondateurs du festival, nous présente donc cet événement, ce festival qui s'appelle Histoire et Crapahute.
Oui, Histoire et Crapahute, et j'ai envie de dire que tout est dans le titre justement, c'est-à-dire qu'on va crapahuter, mais on va aussi et peut-être surtout raconter des histoires. C'est-à-dire que nous, on aime bien que les aventuriers réalisateurs ou réalisatrices nous proposent quelque chose qui va au-delà du simple trajet. On ne cherche pas des films qui nous décrivent un trajet d'un point A à un point B, on cherche des films dont la rando est une toile de fond, mais qui vont nous proposer des aventures humaines inspirantes et qui vont toucher à tout un tas de sujets qui peuvent être la maladie, la résilience, le dépassement de soi, l'itinérance, etc. Voilà, donc on essaie de concocter des programmes où l'histoire a tout autant d'importance que les beaux paysages qui se prêtent bien au grand écran, mais qui, selon nous, ne se suffisent pas à eux-mêmes.
Et comment c'est venu cette idée de faire un festival de films donc qui se centre comme ça un peu quand même autour de l'idée de la marche, de la randonnée?
Ben en fait, il se trouve que donc on est deux copains à avoir monté ce festival et on travaillait dans la même société, qui est une société qui a été délocalisée il y a 3 ans à l'étranger. Donc on s'est un petit peu retrouvés sur le carreau et on était arrivé à un moment de notre trajectoire où on se disait, mais est-ce qu'on a envie de reprendre un job salarié ou est-ce qu'on a envie d'aller vers un truc qui nous passionnerait, de créer un job passion? Moi, ma passion, c'était de faire des films. J'anime un collectif depuis longtemps. Il m'est arrivé de proposer des films à la Jeunette Verte à Florac dans le passé. Et mon collègue, c'est l'alpinisme. Et on était tous les deux des gros randonneurs. Et donc, on a réfléchi autour de toutes ces notions et c'est comme ça qu'est né le Festival du film de Rando.
Et donc, c'est un festival itinérant qui se déplace dans différentes villes en France pour des séances qui durent 3 heures à peu près, que vous animez. Et dans ces séances, on pourra voir donc découvrir 3 courts-métrages. Est-ce que vous pourriez nous présenter ces films ? On peut commencer peut-être avec le premier qui s'appelle Une montagne d'espoir du réalisateur Nicolas Lebenboim.
Alors, c'est un film qui va suivre Dorothée et Tiffany, qui sont. Dorothée est une infirmière qui est spécialisée en psychiatrie. Et Tiffany est une jeune femme qui a des troubles mentaux. Et Dorothée va emmener Tiffany conquérir un col à 5400 mètres d'altitude dans la chaîne de l'Himalaya, au Népal. Et Dorothée fait ce genre d'exercice depuis très longtemps. En fait, dès qu'elle a commencé sa carrière en hôpital psychiatrique en tant qu'infirmière, elle a choisi de monter une activité montagne. Et l'hôpital a suivi, elle a animé cette activité pendant 24 ans. Et elle a prolongé ça dorénavant au sein d'une association qu'elle a créée. Et le premier projet de l'association, c'était ça, c'était cette sortie avec Tiffany qu'elle avait rencontrée pendant ses séjours en hôpital, et elle trouvait qu'elle réagissait très bien à ce type d'activité de montagne. Et donc, elle lui a proposé d'aller faire ce col. Et donc, on va suivre le projet de l'ascension qui dure 12 jours et qui monte plus de 5400 mètres d'altitude. Donc, c'est un beau message inspirant, puisque sans spoiler, elles vont évidemment arriver à remplir l'objectif qu'elles s'étaient fixé. Et Dorothée explique que c'est très intéressant de voir combien les gens qui sont atteints de troubles mentaux sur ce type de projet arrivent à se concentrer, à se fixer des objectifs, et tout ça participe clairement à un mieux-être par rapport à leur maladie.
Alors, un second court-métrage qui sera présenté, il s'appelle Un sentier à soi, de Judith Laloy, Colline Briard et Marion de Wint.
Alors ça, c'est un film belge, mais qui se passe en France, qui se passe sur Compostelle. En fait, on a 3 réalisatrices qui se sont rencontrées en école de journalisme à Bruxelles. Et dans le cadre de leurs études, elles devaient rendre un mémoire médiatique qui était un gros projet autour d'un sujet avec un film, avec des podcasts, avec un site internet, des réseaux sociaux, etc. Et elles ont choisi de s'intéresser aux spiritualités nouvelles en suivant 3 pèlerines qui font Compostelle. Et donc, elles les ont suivies sur 3 tronçons. Et ce qui est très intéressant dans ce film-là, c'est de voir que toutes les 3 marchent sur Compostelle, mais toutes les 3 le font vraiment pour des raisons totalement différentes. Donc il y a une pèlerine qui fait ça pour des raisons religieuses, parce que c'est quand même un pèlerinage religieux, donc c'est tout à fait logique, j'ai envie de dire. Mais pour autant, il y a énormément de marcheurs maintenant qui font Compostelle sans dimension religieuse, mais pas sans une certaine forme de spiritualité, parce qu'il y a un esprit du chemin, on va dire. Et donc il y en a une qui fait ça pour se découvrir, il y en a une qui fait ça pour se reconstruire, et puis il y en a une qui fait ça dans le cadre du pèlerinage religieux.
De toute façon, on peut dire que dans la marche ou la randonnée, il y a quand même toujours quelque part une forme de dimension spirituelle.
Oui, il y a toujours une forme d'introspection, parce que dans ce film, il y a une des pèlerines qui dit quelque chose qui est, je trouve, assez marquant. Elle dit « le muscle le plus important de la marche, c'est le cerveau ». Et c'est vrai que pour différentes raisons, parce que parfois la marche, ça peut être des projets vraiment sportifs, et donc c'est le mental qui nous fait arriver au bout, parce que c'est vrai qu'on réfléchit aussi beaucoup pendant qu'on marche, ou même parfois on se vide l'esprit, mais c'est vrai que le cerveau a un rôle important à jouer pendant la marche, et donc de fil en aiguille, il peut en être une certaine spiritualité tout à fait.
Et le troisième court-métrage, c'est Via Alpina sur les pas des pionnières de Zoé Lemaître.
En fait, Zoé, elle parcourt un trek de plus de 2000 km qui va de la Slovénie à la France, 135 000 mètres de dénivelé en 120 jours, donc c'est quand même un truc assez costaud, et qui s'inspire très clairement de la Via Alpina, qui est une voie identifiée. Bon, elle ne suit pas exactement cette voie-là, mais elle s'en inspire. Et elle en profite pour interroger des femmes sur leur rapport à la montagne. Et donc, les pionnières, pour elle, c'est ces femmes qui ont pris la montagne à bras-le-corps, mais qui ne sont pas des pionnières de l'alpinisme. C'est des femmes d'aujourd'hui qui vivent dans notre temps. Et donc, il en ressort finalement une vision de ce que les femmes pensent de leur rapport à la montagne. Et vous aurez noté que la saison était finalement intégralement féminine, puisque les 3 films s'intéressent à des femmes. Et ça, on en est vraiment content parce que les deux premières saisons étaient essentiellement masculines. Et ça reflétait en fait les films qu'on recevait. Donc nous, que ce soit des hommes ou des femmes, j'ai envie de dire, c'était pas ce qui nous importait. Ce qui nous importait, c'était d'avoir des belles histoires bien racontées. Mais c'est vrai que ça avait été essentiellement masculin jusque-là. Et donc là, on est très content de proposer une saison qui laisse la place aux femmes. Et donc à la fin de la séance, les gens votent pour le prix du public, c'est-à-dire que on fait voter toutes les salles pour leurs films préférés. Et en fin de saison, on attribue un prix du public au film qui a reçu le plus de suffrages. Ce qui est important, c'est que les gens comprennent que voilà, on essaie de raconter des histoires inspirantes en choisissant des films qui sont assez rythmés. Parce qu'on pourrait croire que la marche, c'est contemplatif et que donc il ne va pas se passer grand-chose. Et en fait, généralement, les gens sortent de la séance en nous disant qu'ils n'ont pas vu le temps passer. Et ils sortent la plupart du temps en nous disant, et j'espère que ce sera le cas en saison 3 aussi, on n'a qu'une envie, c'est de faire notre pactage. Et nous, ça nous fait super plaisir parce que ça veut dire qu'ils se sont bien identifiés et que ça leur a plu.
Merci beaucoup à Philippe Donadi, cofondateur du festival Histoire et Crapahut, d'avoir échangé au micro de Radio Bartas. Les séances lausériennes du festival auront lieu dès ce week-end, samedi 28 mars à Saint-Chély-d'Apché, dimanche 29 à Marvejols et à Mende, ce sera un peu plus tard, le 18 avril. Toutes les infos et la billetterie sont sur le site histoirecrapahut.wixsite.com, histoire au pluriel. Et petite pause musicale dans quelques instants sur Radio Bartas. Et vous le savez peut-être ou pas, mais une des missions de cette radio, et donc des miennes dans cette émission, c'est de faire entendre sur nos ondes des musiciens émergents, locaux, indépendants. Et bon là, eh bien, je vais vous faire entendre un artiste qui n'est ni local, ni émergent, mais qui est indépendant au moins, et qui vient de sortir un morceau qui est tellement addictif, c'est vraiment le tube du printemps, un peu là pour moi. Il s'agit de PLK, et le morceau c'est Sex Model, en featuring avec Théodora. Deux énormes noms donc du rap français, Théodora la Boss Lady et PLK, figure de la scène rap depuis son premier album Polak en 2018 et jusqu'à aujourd'hui avec la sortie il y a quelques semaines de son troisième album Grand Garçon. Alors avant d'être rappeur, PLK, il était mécanicien et il a gardé ce côté artisan, il reste totalement indépendant. Il travaille dur, beaucoup, avec une petite équipe au sein de son label Panenka. Il habite dans la chambre où il a grandi, chez sa grand-mère, et comme il le confiait au journaliste Rachid Lahiresh dans une interview au journal Libération en février dernier, je le cite, « Dans la mécanique, le résultat est plus direct, alors que dans la musique, je cherche ma sauce pour rendre le truc bien sans être certain de la finalité, mais il y a la même fierté quand tu réussis. Parfois, quand je croise des personnes qui ne me reconnaissent pas et qu'elles me demandent « Tu fais quoi dans la vie ?», je réponds « Mécanicien ». Je trouve ça plus crédible que de répondre « Rappeur ». Je ne veux pas paraître pour le mec qui se la raconte en mettant de la distance, mais j'ai toujours eu un peu de mal avec la notoriété. » Bon, il vient de remplir deux dates au Stade de France en quelques heures, donc voilà pour la notoriété. Et jusqu'en Lozère, d'ailleurs, jusqu'aux ondes de Radio Bartas maintenant. C'est une première, en tout cas, je crois, du PLK sur Radio Bartas. C'est parti, Sex Model, PLK avec Théodora, montez le son.
Je lui fais un boulot, y'a rien de personnel. Elle sait s'occuper d'un homme zinc où j'en perds le sommeil. J'suis devenu bête, même fatigué, j'reste hôtel. Mais c'est une pirate, elle est peut-être sur sex model. Sex model, sex model. Mais c'est une pirate, elle est peut-être sur sex model. Elle est exceptionnelle, exceptionnelle. Mais c'est une pirate, elle est peut-être sur sex model. Prêter à maquiller, tout le monde veut la marier. Compte les demandes par milliers, le teint bronze est vanillé. Foot de acteur étranger, Marbé Dubaï est Tanger. Madame aime l'attention, elle aime le danger. Boîte de nuit à tous les soirs, elle est là-bas tous les soirs. Elle est pas là pour les soifs. Elle a cassé tous les cœurs, après faire l'effet sec les fleurs. L'effet fait que les pleurs, avec elle soit pas trop sentimentale. Je la connais à peine, mais y'a déjà trop de gens qui m'en parlent. Je lui fais un boulot, y'a rien de personnel. Elle sait s'occuper d'un homme zinc où j'en perds le sommeil. Je suis devenu bête, même fatigué, je reste hôtel. Mais c'est une pirate, elle est peut-être sur sex model. Sex model, sex model. Mais c'est une pirate, elle est peut-être sur sex model. Elle est exceptionnelle, exceptionnelle. Sur sex model.
Le roi les rois, j'aime bien peut-être que c'est le bon. J'entends son nom dans toutes les rues et sur le pont. Il me voit en pirate cause d'un cas été un con. Bébé, pour le vieux là, je lui dis que je suis le con. Et moi je suis sexy mais là je veux pas de corps à corps. Il me dit texte mais avec les mots désaccords. Mais tu me vas partout dans le désert. d'accord. Flirter sans accord, baby. Viens emballer comme un cadeau, j'ai les cordes. J'espère que t'aimes les cordes. Et s'il te plaît, sors les cornes, baby. J'ai le ficelle en triangle en bas du corps.
Je lui fais un boulot, y'a rien de personnel. Elle sait s'occuper d'un homme, ça couche en personne. J'suis devenu bête, même fatigué, j'reste hôtel. Mais c'est une pirate, elle est peut-être sur sex mode. Sex mode, sex mode. Mais c'est une pirate, elle est peut-être sur sex mode. Elle est exceptionnelle, exceptionnelle. Mais c'est une pirate, elle est peut-être sur sex mode.
Non, non, ce n'est pas Skyrock, mais bien Radio Bartas, et il est toujours midi et des poussières sur le 107 et sur radiobartas.net.
Midi et des poussières.
Midi et des poussières, un rendez-vous presque quotidien sur Radio Bartas.
Et on continue de parler cinéma en ce mercredi avec maintenant du cinéma québécois. Je vous l'ai annoncé hier avant de Québec commence à souffler sur Florac, et il a même poussé les portes de ce studio, et Julien Boutillier est entré. Salut Julien.
Salut.
Alors tu es journaliste en résidence à la Nouvelle Dimension dans le cadre du festival Vue du Québec qui arrive bientôt, et d'ici là tu vas venir régulièrement au micro de Radio Bartas pour nous proposer des chroniques, pour nous parler de cinéma mais avant tout du Québec, nous permettre de mieux comprendre et découvrir le Québec à travers des thématiques qui seront abordées dans les films présentés au festival.
Exactement.
Et donc, pour commencer aujourd'hui, une chronique un peu introductive, tu as voulu venir nous présenter la région qui sera à l'honneur cette année au festival. C'est la Gaspésie, et j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques points communs avec la Lozère.
Ouais, vraiment, et je pense que c'est quelque chose qui est assez marquant. Quand on regarde un peu ce qui se passe en Gaspésie, on voit nécessairement des liens avec la Lozère. Mais avant de commencer, petit avertissement, j'ai passé plus de temps en Lozère qu'en Gaspésie. Donc, je ne veux pas là, me placer comme un spécialiste de la Gaspésie. Mais c'est quand même une région qui est très cool et que je connais quand même un peu, donc ça va me faire plaisir de vous en parler. Mais oui, je connais bien la Lozère quand même parce que j'étais ici l'an dernier.
Oui.
J'ai fait un stage dans le cadre du festival l'an dernier. J'ai été ici environ 2 mois. Et là, Guillaume Sapin, là, qui coordonne le festival, m'a dit que bon, je pouvais revenir grâce à un financement qu'il y avait eu pour une résidence journalistique dans le cadre d'un programme d'éducation aux médias, enfin. Donc j'étais vraiment content de pouvoir revenir ici et reconnecter un peu avec la Lozère. Donc je suis de retour à Florac. Si vous entendez un accent dans la rue, venez me saluer, ça me fera plaisir. Mais c'est ça, tu le disais d'entrée de jeu, donc la région, à chaque année, il y a une région bon, à l'honneur dans le festival Vue du Québec cette année, c'est la Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Donc c'est le nom officiel de la région. On va se concentrer un peu sur la Gaspésie aujourd'hui. Il y a aussi les Îles-de-la-Madeleine qui sont un archipel d'îles au Québec qui est vraiment magnifique. On aura peut-être l'occasion d'en reparler une autre fois. Mais bon, c'est quand même deux régions assez loin qui sont séparées là, par un traversier. Mais bon, pour des raisons administratives, là, on les met ensemble au Québec. Mais dans ma tête, c'est vraiment deux régions là, assez séparées. La Gaspésie, c'est vraiment une péninsule qui est située à l'extrême est du Québec, on est sur le bord de la mer, et ça c'est rare au Québec, on n'a pas énormément d'accès à la mer, donc c'est vraiment ce qui rend cette région-là assez unique. Et il y a un côté bon qui ressemble un peu plus à la Lozère, qui est le côté plus montagneux, parce
oui,
qu'on
parce
est vraiment
que la mer,
ouais là
c'est ça.
Ben, il y a des ressemblances, il y a aussi des différences. J'y arrive, mais la mer, ce sera certainement une des différences. Mais en Gaspésie, on est vraiment entre mer et montagne, donc dans l'aspect plus montagneux, je pense qu'on pourra retrouver certains points communs. Il y a une faune qui est assez sauvage, des petits villages un peu patrimoniaux, une culture qui est, oui, à la fois maritime, mais aussi liée à cet aspect de montagne. Pour vous donner une idée, là, la superficie de la Gaspésie est similaire à celle de la Belgique, pour une population d'environ 130 000 habitants. Donc,
c'est encore moins dense qu'ici.
Encore moins dense qu'ici. Et c'est le premier point commun, justement, une très faible densité de population, du moins de population à l'année. Parce que, comme la Lozère, la Gaspésie, c'est une destination qui est assez prisée par les touristes en été. Quand il fait beau, on y vient et ensuite, on quitte. Mais les gens qui restent à l'année, donc il y a une très faible densité de population, mais ça crée un peu comme ici, je crois, un fort tissu social. Il y a vraiment une vie de communauté en Gaspésie. Il y a beaucoup d'entraide et il y a beaucoup également d'artistes qui habitent là, d'endroits où on voit donc bon des résidences artistiques, des petits festivals qui émergent, mais un fort sens de communauté. Et les hivers sont rudes en Gaspésie. Mmh. Déjà, les hivers sont rudes au Québec, oui. Mais quand on est dans le nord-est, sur le bord de la mer, c'est encore pire.
Oui, c'est ça, parce que j'allais dire, c'est quoi rude en Gaspésie, sachant qu'il peut faire moins 40 à Montréal?
Ben, c'est peut-être pas nécessairement plus froid, mais ça va être encore plus isolant, des vents, des grosses tempêtes, on va avoir plus de neige, des plus fortes précipitations. Et oui, je pense qu'il va faire quand même un peu plus froid qu'à Montréal, où on est vraiment dans le sud du Québec. Parce que ce qui est fou quand même au Québec, et là, bon, ça c'est une petite parenthèse, mais tout le monde pense au Québec comme étant le Grand Nord, mais je pense que c'est 80 ou 90% de la population au Canada qui habite à moins de 100 km de la frontière américaine. Et donc, c'est un immense territoire, mais qui est très peu peuplé. Tout le monde habite, bon, le long de la frontière, là où il fait un peu plus chaud, un peu moins montagneux, où les conditions de vie sont un peu plus propices. Et donc, pour citer quelqu'un de Florac qui m'a dit ça ce week-end à propos de Florac, mais je pense que ça, c'est vraiment à propos pour la Gaspésie aussi, il faut le vouloir pour y habiter à l'année. Et donc, les gens qui habitent là, bon, soit sont nés là ou ont vraiment décidé d'habiter là, il faut le vouloir pour rester même à travers ces hivers quand même rudes. Donc, je trouve qu'il y a un beau parallèle là, et notamment l'impact du tourisme aussi, qui est en grande augmentation là, en Gaspésie depuis la pandémie. Je lisais notamment là, qu'en 2020, bon, quand les frontières ont été fermées à l'international à l'été 2020, les Québécois ont vraiment redécouvert la Gaspésie. Et bon, peut-être un peu aux grandes dames des habitants locaux qui ont trouvé ça peut-être un peu difficile. Les gens campaient n'importe où. Il y avait vraiment, les gens laissaient des déchets un peu partout. Je lisais même justement qu'il y avait des élus qui s'inquiétaient à l'époque pour la résistance du réseau de distribution d'eau. Là. Donc, c'était vraiment à ce point-là. Voilà. Un des grands points communs, c'est vraiment les initiatives citoyennes. Il y a une grande résistance citoyenne en Gaspésie, notamment pour la préservation des écosystèmes. Et il y a une série documentaire qui parle de ça qui s'appelle Ramaillage. C'est une série documentaire de Moïse Marcoux-Chabot qui va être invité durant le festival. Et cette série-là, elle présente le territoire, ses habitants et leurs initiatives, notamment des initiatives pour une agriculture communautaire durable, pour un projet d'autonomie alimentaire, pour des efforts de conscientisation pour préserver l'écosystème. Je pense que c'est des choses qui résonnent quand même beaucoup dans la région ici et c'est pourquoi la Nouvelle Dimension a décidé de présenter ces épisodes-là en partenariat avec 6 associations en Lozère. Et donc, chaque association présente un épisode et propose une restitution. Donc, on va faire le lien avec une cause locale. Je vous donne un exemple. Ce soir, il y aura un épisode qui va être présenté en collaboration avec la Lézarde, qui est bon, le collectif ici qui s'oppose à un projet d'aménagement de la route 980 et revendique donc un projet qui est plus respectueux du territoire.
Sur la commune de Bédouès-Cocurès.
Exactement, exactement. Ils vont présenter l'épisode Braise, qui parle de la résistance d'un groupe de militants en Gaspésie qui s'oppose au développement d'un projet pétrolier et gazier de forage et qui donc ont organisé toute une série d'activités, de militantisme pour s'opposer justement à ça et donc de présenter cet épisode-là ici à des kilomètres, des milliers de kilomètres de la Gaspésie, mais d'en faire aussi ensuite une discussion, une restitution. Ça permet vraiment de mettre en relief, je pense, les similitudes des luttes dans les deux territoires. On a fait le même exercice la semaine dernière. On est allé à l'Espinasse, où on a, au relais de l'Espinasse, où on a présenté également un épisode et sur l'agriculture locale, l'agriculture qui pourrait être plus à échelle humaine. Et les échanges qu'on a eus ensuite avec les gens étaient vraiment intéressants. Je pense que ça permet de voir que, malgré les différences entre les deux territoires, il y a plusieurs points communs, puis on se ressemble peut-être plus qu'on pense. Puis c'est ça qui est cool aussi, à travers le festival, à travers le cinéma, de montrer des réalités québécoises. Oui, il y a des grandes différences, mais il y a aussi plusieurs points communs, notamment entre les différentes régions rurales, malgré qu'il y a quand même plusieurs différences avec la Gaspésie. Je le mentionnais d'entrée de jeu, c'est une région maritime, il y a beaucoup de villages de pêcheurs, la proximité avec la mer est vraiment au cœur de l'identité là-bas, donc bon. Évidemment, ces aspects-là sont moins présents ici.
Il y a des pêcheurs quand même ici, pêcheurs à la truite en rivière.
C'est vrai, oui, mm-hmm. C'est vrai. Mais bon, oui, donc là-bas aussi, il y a de la pêche en rivière de saumon, mais il y a aussi beaucoup de la pêche de mer, donc des crabes, des homards, ça, bon, on est peut-être un petit peu plus loin. Ici, il y a aussi tout l'enjeu de cohabitation avec les peuples autochtones en Gaspésie qui est super intéressant et dont je pourrais revenir vous parler une autre fois. Mais donc voilà, je pense qu'il y a quand même plusieurs points communs avec cette région. Et si jamais ça vous intéresse, donc ce soir, c'est à la salle des fêtes de Bédouès à 18h30. Donc la Lézarde qui va présenter un épisode de Ramaillage et proposer une restitution en lien avec leur combat ici localement.
Super, merci beaucoup, Julien. Et est-ce que le réalisateur de Ramaillage, Moïse, j'ai oublié son nom.
Moïse Marcoux-Chabot, oui.
Il sera là pendant le festival.
Il sera là pendant le festival. Et pendant le festival, donc, à l'ancien tribunal, il y aura une exposition donc, avec les 6 assos partenaires où on va présenter justement les restitutions. Il y aura un échange également avec le réalisateur qui pourra donc lui aussi voir comment ces épisodes ont trouvé écho ici en Lozère. Donc, je pense que ça va être super intéressant comme échange.
Oui, et même pour lui, parce que lui, ce sera sa première fois en Lozère.
Oui, puis sa première fois, je pense, de voir que... dans le sens, c'est une série documentaire qui était quand même assez nichée, peut-être un peu quasi confidentielle, de voir que ça sort du Québec comme ça et que ça trouve écho ailleurs. Pour les invités, souvent, c'est vraiment intéressant de voir que leur cinéma a un impact ici. Le cinéma québécois a parfois de la difficulté à voyager, surtout dans les films d'auteur. Bon, évidemment, Xavier Dolan et tout ça, ça voyage beaucoup, mais dans certains films plus nichés, on a de la difficulté. Il y a la barrière de la langue. Même en France, des fois, les gens disent « Ah, on comprend pas tout ». Donc, de voir qu'il y a un festival ici qui fait vraiment la lumière au cinéma québécois puis que leurs œuvres peuvent voyager à l'étranger, ça fait toujours plaisir aux réalisateurs, réalisatrices.
Et ça nous fait aussi beaucoup plaisir à nous, Floracois, Floracoises, Lozériens, Lozériennes, d'accueillir ce grand vent québécois.
Ah, mais ça, je le vois. Les gens sont tellement accueillants ici, ça fait vraiment plaisir.
Eh ben merci beaucoup, Julien. On va donc se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Il faut qu'on trouve un nom, d'ailleurs, à cette chronique. Le festival, c'est Vue du Québec, donc là, ça pourrait être Une Voix du Québec.
Ah, j'aime bien. J'aime bien. Est-ce que je vais avoir mon petit jingle?
On va pouvoir le faire. En tout cas, on se quitte avec Une Voix du Québec. C'est celle de Vincent Roberge, plus connu sous le nom de son projet musical Les Louanges. Une voix qui confirme sa présence. C'est le titre du morceau qu'on va écouter, issu de son nouvel album Alouette, qui sortira le 10 avril prochain. Un morceau comme une sorte de manifeste, une quête de sens dans un monde qui n'en a plus beaucoup, sur un sample d'une chanson de la poétesse québécoise Suzanne Jacob.
Éternel et parfait néanmoins, je confirme ma présence. Non pas le premier ni le dernier, je suis dans la mouvance. Le vrai n'est plus ce qu'il était, non. Je côtoie la démence. Je tète le sein du diable qui m'allaite. J'entretiens ma dépendance. Les horreurs n'arrêtent jamais, c'est un vrai plan séquence. Les voix à qui on a donné un micro brillent par leur silence. Steak, blé, d'une patate, c'est fini. Le monde est à ta porte. Des munitions tirées sur des gaz, ah oui, sont faites au Québec, mon pote. Le fleuve coule dans mon sang, laisse faire la souche, fière nouvelle branche. Alouette, alouette, je t'aime, on assure ta descendance. La vie, c'est une grosse joke, une plaisanterie, t'en ris ou tu sautes. Le futur m'inquiète, à quiconque en haut, j'implore la clémence. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où je rêve à ta demande. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où je rêve à ta demande. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où je rêve à ta demande. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où je rêve à ta demande. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où je rêve à ta demande. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où je rêve à ta demande. Je rêve au coin d'ombre, au fond du jardin, je rêve au jour où je rêve à ta demande.
Il est vraiment super ce morceau, donc c'était Les Louanges, je confirme ma présence. Tu le connaissais, Julien?
Oui, mais même ce morceau-là, je l'écoutais pas plus tard que cette semaine dans mes écouteurs en me baladant dans les rues de Florac.
Ah ben voilà.
Puis quand il dit « Je rêve d'un coin d'ombre au fond du jardin », je voyais les jardins un peu, des maisons et les oiseaux qui chantent dans la musique se mêlaient aux oiseaux qui chantent dans la vraie vie, donc morceau très cool. J'ai déjà vu Les Louanges en spectacle, c'était spectacle concert extérieur gratuit au Franco de Montréal il y a je crois 2-3 ans, puis c'était vraiment un très bon show. Il s'était mis à pleuvoir des cordes au milieu du spectacle et on dirait que ça amenait une énergie supplémentaire. Il est vraiment très excellent en spectacle. Si vous avez l'occasion de le voir en concert, je pense qu'il vient en France des fois. Je ne sais pas s'il va venir en Lozère, qui sait?
Peut-être pas en Lozère, mais en tout cas, oui, à l'occasion de la sortie de son nouvel album, j'ai cru voir qu'il y avait pas mal de tournées qui se préparaient, donc à suivre.
Merci.
Merci à toi. Et pour clore ce mercredi cinéma dans Midi et des poussières, place à la chronique Parlons Ciné avec Cinéco.
Parlons ciné
avec Cinéco,
la rubrique cinéma de Cinéco,
l'association de cinéma itinérant en Cévennes, sur Radio Bartas.
Et aujourd'hui, c'est toi Jérôme qui est là pour la chronique Parlons Ciné avec Cinéco. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à toutes les auditrices et aux auditeurs de Radio Bartas.
Alors aujourd'hui Jérôme, tu nous présentes le film « Les Aigles de la République ».
Oui, et je suis ravi de vous présenter ce film que j'ai vu il n'y a pas très longtemps. Donc aujourd'hui, je vais me permettre une petite entorse à mes habitudes. Je ne vais pas commencer par vous raconter l'histoire du film. Je vais rompre un peu le déroulé classique de mes chroniques, parce que dans Les Aigles de la République, les interprètes sont très très bons, dans des rôles parfois que je trouve un peu malmenés, et qu'il mérite vraiment qu'on s'y arrête un petit peu. Donc, avant de parler du film, un mot sur les interprètes. On retrouve d'abord Lina Koudri, qui est une jeune actrice française algérienne, qu'on a vue dans Novembre de Cédric Jiménez, ou encore dans Les Trois Mousquetaires, 13 jours et 13 nuits aux côtés de Roche Dizaine, et qui s'impose aujourd'hui comme une actrice capable de naviguer entre cinéma d'auteur et film grand public. Vous l'avez sans doute vu dernièrement dans Le Gang des Amazones, que nous avons projeté chez Cineco. À ses côtés, dans ce film, Les Aigles de la République, vous allez retrouver Zineb Triki, qui a double nationalité, elle est française-marocaine, elle a été révélée au grand public dans la série Le Bureau des Légendes. Et elle livre ici, dans ce film, une composition très marquante, avec un personnage à la fois élégant, mystérieux et très affirmé, bien qu'on la voie peu à l'écran. Vous allez retrouver également, j'espère que je ne vais pas écorcher son nom, Amr Waked, qui est un acteur égyptien assez important, qu'on a vu dans Syriana ou dans Lucie de Luc Besson. C'est un acteur qui incarne souvent des figures prises dans des systèmes politiques complexes, ce qui est encore le cas ici dans le film Les Aigles de la République. Et j'ouvre une petite parenthèse, c'est un acteur que vous allez retrouver bientôt à l'écran dans l'excellent second film de Gaïa Gigi, aux côtés de Zahr Amir Ebrahimi, qui joue le rôle d'une réfugiée syrienne en France. Ce film sortira sur les écrans en juin, je crois, et on a eu la chance avec Vincent, le directeur de Cineco, et Mireille, et beaucoup de cinéma itinérant, de découvrir ce film aux Rencontres du Sud à Avignon la semaine dernière, qui est une rencontre de cinéma professionnel. Et je m'aperçois, là, avec vous, pendant cette chronique, que j'ai oublié de parler de Cherianne Dabis, qui est une actrice et réalisatrice américo-palestinienne, qu'on a vue notamment dans America, ou plus récemment dans des séries internationales. Elle a une présence dans le film assez forte, très ancrée, et elle apporte au film une dimension à la fois politique et intime, assez subtile. Elle a un rôle déterminant dans Les Aigles de la République, avec un personnage à qui il arrive des choses assez moches, et ce qui participe à la montée presque insigneuse vers une forme d'horreur dans le film Les Aigles de la République. Et puis, finalement, on retrouve Fares Fares, qui est un acteur né en 1973 au Liban et qui migre avec ses parents à l'âge de 14 ans en Suède. C'est l'acteur central du film et c'est le véritable alter ego du réalisateur Tarek Saleh. C'est un comédien avec lequel le réalisateur travaille depuis plusieurs films, notamment Le Caire confidentiel et La conspiration du Caire, qui formaient déjà les deux premiers volets de cette trilogie. Dans Le Caire confidentiel, il incarne Noureddin, un inspecteur de police corrompu, fatigué, presque cynique, qui évolue dans un système gangréné par le pouvoir et l'argent en Égypte. C'est un personnage très noir, qui va peu à peu être rattrapé par une forme de conscience morale dans une Égypte aux portes de la Révolution. Dans La conspiration du Caire, le second volet de cette trilogie, il joue Ibrahim, un colonel des services de sécurité beaucoup plus froid, plus stratégique, presque insaisissable. Là, il n'est plus un homme perdu dans le système, mais quelqu'un qui en comprend parfaitement les rouages et qui les manipule avec une grande intelligence. Ce sont deux rôles très différents, mais qui ont en commun cette capacité à incarner des personnages pris dans des structures de pouvoir, entre loyauté, manipulation et survie. Cet acteur principal, donc Fares Fares, est aussi connu du grand public pour de nombreuses productions internationales, comme dans Zero Dark Thirty, de l'excellente réalisatrice américaine Catherine Bigelow, et vous retrouvez Fares Fares dans la série Tchernobyl et aussi dans la saga scandinave Les Enquêtes du département 5 où il incarne Assad. D'ailleurs, une série que je vous conseille. Fares Fares est un acteur avec une capacité de transformation assez impressionnante et dont Tarek Saleh dit lui-même qu'il écrit ses rôles pour lui. Dans Les Aigles de la République, il livre sans doute une de ses performances les plus abouties en incarnant un personnage à la fois charismatique, fragile, et profondément ambigu. Avec ce film, Tariq Saleh vient clore sa trilogie débutée en 2017 autour du pouvoir en Égypte, mais en changeant légèrement de point de vue. Après la police et les institutions religieuses, il s'intéresse ici au monde du cinéma lui-même et à la manière dont il peut être récupéré, instrumentalisé. Donc, Les Aigles de la République, ce film raconte l'histoire de Georges Fani, immense star du cinéma égyptien, adulé par le public. Sa vie bascule lorsqu'il est contraint par les autorités d'incarner le président Al-Sisi dans un film de propagande. Ce qui pourrait être une consécration devient rapidement un piège. En acceptant ce rôle, il entre dans les coulisses du pouvoir, un univers opaque, où chaque geste est observé, contrôlé, mesuré, dangereux. Peu à peu, il se retrouve pris dans un engrenage qui le dépasse, entre manipulation politique, jeu d'influence et relations personnelles dangereuses. Et sans trop en dire, le film pose une question assez vertigineuse. Quand on passe sa vie à jouer des rôles, que reste-t-il de soi quand la fiction devient une arme du pouvoir? Alors moi, mon avis sur le film est assez simple. Je ne suis pas un très grand connaisseur de l'Égypte contemporaine ou de sa situation politique. Donc, il m'est parfois difficile de bien situer ce qui relève dans le film du réel et ce qui relève de la fiction, ou même de comprendre pleinement le contexte dans lequel évoluent quelquefois les personnages. Sachez tout de même que Tariq Saleh, le réalisateur des Aigles de la République, et enfin de cette trilogie, est né d'un père égyptien et d'une mère suédoise. Voilà, petit à petit, ça permet de construire les liens. Moi, ce qui m'a frappé dans ce film, c'est que il ne semble pas raconter uniquement une histoire égyptienne, si on peut dire ça comme ça. J'ai vraiment eu l'impression que le réalisateur a voulu aller vers quelque chose de beaucoup plus universel. On sent que cette histoire pourrait être transposée ailleurs, dans des pays démocratiques, dans de grandes industries culturelles, dans des studios de cinéma, où tout est possible, mais malgré tout, tout est quand même bien contrôlé. Et bien évidemment, le film est aussi tout à fait transposable dans des régimes beaucoup plus autoritaires. Et en préparant cette chronique, en lisant des interviews de Tariq Saleh, je me suis rendu compte qu'il disait à peu près la même chose, que ce n'était pas seulement un film sur l'Égypte, mais c'est un film sur le rapport entre un artiste, le pouvoir, l'argent et les compromis que ça implique. Et pour terminer cette chronique, je dirais que c'est sans doute ça qui rend le film intéressant. Cette capacité à dépasser son contexte pour parler de quelque chose de beaucoup plus large. Voilà, je vous invite donc à retrouver cet excellent film qui clôt cette trilogie sur nos écrans actuellement chez Cinéco. Merci de votre écoute.
Merci beaucoup à toi, Jérôme, pour cette chronique. Et avec Jérôme, on voulait vous préciser que Les Aigles de la République n'a pas été tourné en Égypte, car le réalisateur Tariq Saleh n'a pas pu y retourner dans son pays depuis 10 ans, depuis qu'il s'était fait chasser par les autorités 3 jours avant le début du tournage de Caire Confidentiel, le premier film de sa trilogie Kaïrot. La ville donc du Caire a été reconstituée ici pour le film Les Aigles de la République en Turquie. Le tournage a eu lieu à Istanbul. Et quelques premières dates à vous partager donc pour ce film, visible sur vos écrans. En Sevenol grâce à Cinéco, à Bar des Cévennes, le samedi 4 avril à 16h30, une séance à Vébron dimanche 5 avril à 20h30, au Pont de Montvert le jeudi 9 avril à 21h, et pour la suite, eh bien, rendez-vous sur le site de Cinéco ou sur la page de Midi et des Poussières sur le site de Radio Bartas. Je remettrai les liens pour avoir accès à toutes les séances. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous retrouve demain, même heure, midi et des poussières pétantes. Et d'ailleurs, comment vous dire, demain, je suis désolée, il sera encore un peu question de cinéma, puisque je vous emmènerai faire un tour au Festival de cinéma d'Alès, le Festival Itinérance. Voilà, après, c'est promis, on fera une petite pause ciné, enfin, jusqu'à mercredi prochain. Allez, bonne journée sur Radio Bartas.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.